Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour à tous, tu es bien à l'écoute de Yes, le podcast des Warriors. Pour cet épisode ce soir, je suis accompagnée de Elsa, Madame Misquet, bonsoir.
Bonsoir Madame, comment allez-vous ?
Eh bien très bien, merci, merci. À mes côtés également, une invitée de standing au pays des Warriors, Fabienne Lacoude, salut.
Salut.
Tu es l'humaine en chair et en os derrière le compte MILF Media sur Instagram. Tu as créé une newsletter qui parle de maternité et de féminisme et tu as aussi écrit un livre, Daronne et féministe, c'est
oui,
ça ?
C'est ça.
Avec nous aussi ce soir, le public à Marseille, bonsoir. Yeah. Alors ensemble, on va parler de parentalité, justement, et c'est pas la première fois dans Yes, mais ça nous semblait important. Alors déjà parce que ça me concerne personnellement, j'ai un petit monstre de 15 mois qui m'attend à la maison, mais aussi parce que c'est un sujet, la parentalité, qui concerne d'abord les femmes, et qui est aussi trop souvent encore délaissée dans les luttes féministes, comme si avoir des enfants, c'était se soumettre au grand patriarcat. Nos gosses, on les a voulu ou pas, et c'est pas simple tous les jours, et oui, parce que derrière le bonheur parfait, les jolies photos des Instamoms, ces influenceuses qui mettent en avant leur famille parfaite en apparence, eh bien, il y a du caca, du vomi, des lessives, la charge mentale, la charge émotionnelle, la charge éducative. Et quand on est féministe, eh ben, la culpabilité, mais pourquoi j'ai fait des enfants dans ce monde de merde violent et macho ? Alors pour que tu te sentes moins seule dans ta galère de daronne, on t'a concocté un épisode avec des warriors marseillaises. Accroche-toi à ton cast. Yes, c'est parti ! Alors après cette petite mise en jambe, Elsa, je te laisse expliquer le contexte, les circonstances de comment on a préparé cet épisode spécial à Marseille le 25 novembre 2022.
Tout à fait. Aujourd'hui, donc, on enregistre un épisode un peu spécial parce qu'on est en public donc à la mairie du 1er et 7e arrondissement de Marseille. Merci à eux pour l'accueil. Dans le cadre de la journée « Je crains des gains » organisée par le CIDFF PACA, et le réseau Solidarité Femmes qui œuvre depuis plus de 50 ans auprès des femmes afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la déconstruction des logiques de domination et la lutte contre les violences. Pourquoi le 25 novembre ? Parce que c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Cette journée a été instaurée le 25 novembre 1999 par l'ONU. Et cette date a été choisie en mémoire des 3 sœurs Mirabal, militantes dominicaines, qui ont été brutalement assassinées sur les ordres du chef d'État Rafael Trujillo. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc pour préparer l'épisode, on a fait des ateliers avec des femmes à Marseille. Elles nous ont raconté leur victoire de daronne. On a passé un super moment avec elles. Donc déjà, merci beaucoup à elles pour leur témoignage précieux. Zina est malheureusement pas avec nous ce soir. Elle est en convalescence, on lui envoie beaucoup d'amour.
Plein de bisous Zina. Eh ben merci beaucoup Elsa, et à présent je me tourne vers notre invitée Fabienne. Alors tu es militante mater féministe, tu as une fille de 6 ans, c'est ça ?
C'est ça, ouais.
Et en fait toi c'est sa naissance qui t'a fait passer du côté féministe de la force. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, absolument. La maternité, pour moi, a vraiment été un électrochoc féministe et puis aussi existentiel, plus généralement. Et du coup, en effet, quand elle est arrivée, ça a été extrêmement difficile pour moi. En fait, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Ça m'a été extrêmement difficile de rentrer dans ce rôle de mère, dans cette identité de mère. Je suis passée par une grosse dépression du postpartum, une hospitalisation, etc. Et puis une fois que j'ai réussi à dépasser ce qui me concernait personnellement, individuellement, que j'ai commencé à aller mieux. Et à sortir un peu du marasme individuel dans lequel je me trouvais, et existentiel, en fait, j'ai commencé à me questionner en mode ben, « pourquoi moi ? Pourquoi ça se passe comme ça pour moi ?» Moi, j'avais autour de moi que des gens qui m'avaient donné une image de la maternité très facile, très lisse, très belle. C'était vraiment le truc, c'est que du bonheur et tout. Et du coup, moi, je comprenais pas pourquoi pour moi ça se passait pas du tout de cette manière-là. Et du coup, en fait, je sentais qu'il y avait une couille dans le potage, si j'ose m'exprimer ainsi. Et du coup, j'ai commencé à me documenter, en fait, tout simplement, à essayer de comprendre d'abord pour moi, mais assez rapidement pour les autres, parce que, en fait, je me suis assez rapidement rendu compte qu'en fait, c'était un peu un sujet collectif, cette histoire-là, et qu'il y avait une grosse arnaque sociétale autour de la question de la maternité. Et du coup, j'ai creusé de cette manière-là, et puis j'ai commencé à avoir envie de partager un petit peu à la fois mon vécu et puis les réflexions que je menais autour de ce sujet-là. Et donc j'ai ouvert un premier blog qui s'appelait La Daronne Perchée à l'époque. Et puis de fil en aiguille, j'ai eu envie de créer ce média qui s'appelle MILF Media. Et puis j'ai aussi après écrit le livre, et tout ça étant toujours dans une continuité de réflexion qui est permanente, quoi, voilà, qui n'est pas du tout terminée. Et je trouve que vraiment ce sujet-là, au fur et à mesure que ma fille grandit, ben, c'est tout le temps renouvelé. Donc je n'en finis pas de me questionner et de me révolter sur ce sujet de la maternité. Voilà.
Et MILF, pourquoi ce nom ? Parce que ça interroge. Dès qu'on dit on a notre invitée ce soir, ce sera Fabienne de MILF, les gens disent MILF ? Mais quoi ? C'est féministe ça ?
Oui, absolument. Et je suis encore régulièrement interpellée sur les réseaux sociaux là-dessus. Donc MILF, ça veut dire maternité informée, libre et féministe. Mais si j'ai choisi ce terme-là, ce mot-là, c'est parce que quand j'ai annoncé à mon ancien boulot que j'étais enceinte, le premier truc qu'un de mes collègues m'a dit, c'est « Ah, bah tu vas être une MILF maintenant !»
Et oh, c'est pas vrai.
Voilà. Vous pouvez dire juste au cas où il y a des gens qui savent pas ce que c'est.
Oui, et donc MILF, ça veut dire « Mother, I'd like to fuck ».
Donc, la mère que j'aimerais baiser. Quoi.
Voilà, et du coup, c'est un terme qui est plutôt issu du champ de la pornographie. Voilà. Et du coup, en fait, le fait qu'ils me sortent ça, et puis que ça soit le premier truc qui me sorte dans le contexte du boulot, voilà, avant félicitations, ça m'a vraiment sidérée. J'étais complètement estomaquée. Et du coup, des années plus tard, quand il a fallu choisir le nom pour ce média, l'anecdote m'est revenue. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un acronyme avec ça ? Puis en fait, il se trouvait que maternité informée, libre et féministe. C'était plutôt pas mal, donc je suis partie là-dessus.
Et à qui ça s'adresse ? Est-ce que tu sais un petit peu qui te lit ? Est-ce que c'est, j'imagine, plutôt des femmes, non, quand même ?
Oui, je pense qu'on est sur des femmes à 95%. Et j'ai pas mal j'ai des futures et nouvelles mères, évidemment, mais aussi, en fait, pas mal de plus jeunes femmes qui s'interrogent en fait sur la maternité, des personnes qui sont peut-être féministes mais pas encore mères, ou peut-être qu'elles le seront jamais, mais qui se questionnent en tout cas sur ce sujet de la maternité et qui se disent « je préfère être prévenue avant » et qui du coup viennent chercher là de l'info pour peut-être prendre une décision en connaissance de cause, quoi.
Et ouais, très important. Merci Fabienne pour cette présentation, et il est temps de donner la parole aux Warriors.
Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. On a donc préparé cet épisode, comme je le disais, avec des cercles de paroles non mixtes. Oulala, le wokisme. Ce que je vous propose, en fait, c'est qu'on va écouter donc des témoignages pour introduire chaque thématique. Et ensuite, on va en discuter avec toi, Fabienne. Donc, le premier témoignage, c'est Nora qui nous parle de la réaction du futur père de son enfant quand elle lui a annoncé sa grossesse.
En tombant de enceinte de la première, en fait, en annonçant la nouvelle au papa, alors le papa qui s'est complètement... Il a complètement refusé, en fait. Et puis, il a disparu de la circulation. Et du coup, je me suis retrouvée à élever une petite fille qui n'a rien demandé toute seule.
Et donc, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, de la solitude, de la force, tu n'as pas pensé une fraction de seconde de devoir avorter? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment précis?
Alors, d'abord, je me suis dit, voilà, c'est un enfant qui n'a rien demandé et je vais pas me permettre de lui ôter la vie pour faire plaisir à quelqu'un, selon mes croyances. Et je me suis dit, au contraire, c'est un super cadeau dont je vais m'occuper, éduquer. Et vraiment, j'ai plus pris ça comme une joie. C'était un mal pour un bien, mais vraiment, j'ai pris ça comme une joie énorme.
Donc Nora, en fait, elle a vraiment pas pris ça pour un frein, malgré que tu étais étudiante, c'est ça? Tu avais quel âge?
Alors, j'avais 23 ans et c'était plus un challenge pour moi, un nouveau challenge, parce que c'est vrai qu'il y avait les études. Mais là, un enfant, c'est une nouvelle vie, une nouvelle expérience et vraiment, en fait, un challenge à relever.
En plus, tu étais seule dans un pays étranger, donc ça a été une force aussi pour toi?
Oui, c'est sûr que quand on a un enfant et surtout qu'on est seul sans ses parents qui ont toujours été là pour nous tout le temps, et là on se retrouve seul et on se dit, c'est comme si on puisait la force à cause de l'enfant. L'enfant était là pour nous donner cette force en fait pour avancer et on n'avait pas le droit de lâcher en fait.
Wow. Ouais, c'est intense. Il y a pas mal de choses de thèmes qui peuvent être abordés dans ce qu'elle a dit. Moi, il y a un truc sur lequel j'aimerais quand même revenir, c'est la déresponsabilisation des hommes, en fait, dans le fait de tomber enceinte. Je vois quand même très souvent encore aujourd'hui des hommes qui ont l'air étonnés qu'après avoir eu des rapports sexuels non protégés, une femme tombe enceinte.
Mais tu m'avais pas dit que t'étais fertile. Genre, t'as séché les cours de bio, en fait.
Voilà, enfin, il y en a beaucoup qui vont parler de elle m'a fait un bébé dans le dos, sans parler, parce que, ok, ça peut arriver, on sait que c'est quand même très rare, hein, une femme qui va mentir sur le fait qu'elle prend la pilule ou qui va faire un trou dans un préservatif. Enfin, je veux dire, faut pas abuser.
Oui, on met toujours ces histoires en avant. Alors
voilà, moi, tous les cas que je connais, c'était clairement, ils ont couché ensemble sans capote. Enfin, et après, ils sont en mode, mais comment ça? Mais comment tu peux me faire ça? Enfin, j'ai vraiment tout entendu, hein, des amis à moi qui ont vécu ce genre de choses. Et à chaque fois, je suis, estomaquée de comment ils peuvent faire les étonner, quoi. Et trouver ça normal de dire, oh, bah, c'est bon, t'as qu'à avorter. Genre, ça va, quoi. Genre, c'est pas si compliqué que ça, quoi.
Oui, carrément. Il y a un écart sur la charge contraceptive qui est sidérant, d'autant plus que on le sait, les hommes cis sont fertiles 365 jours par an et quasiment toute leur vie. Enfin, même si quand même ça, leur fertilité décroît au bout d'un certain temps, alors que les femmes cis, elles, sont fertiles que quelques jours par mois et sur une période finalement plus courte. Donc, en fait, ça n'a aucune logique que ce soit les femmes qui prennent en charge 100% de la contraception, alors qu'en fait, si on est très logique, les hommes devraient s'en préoccuper beaucoup plus dans la mesure où ils peuvent... pourquoi pas procréer plusieurs fois dans la même journée, quoi.
Donc, ils sont motivés, quand même.
S'ils sont motivés, voilà. Donc, c'est vrai que c'est hallucinant et cette déresponsabilisation va jusqu'au fait de pouvoir se barrer, en fait, juste dire ok, ben ça m'a saoulé, donc je me casse, j'assume pas.
Ça me concerne pas,
ça
en fait.
Me concerne...
C'est, ce
ouais, c'est ça.
C'est ton problème, ciao.
Je me souviens que j'avais fait un espèce de comparatif de livres pour enfants il y a quelques années sur la question reproductive, enfin le corps, la vie sexuelle, la vie reproductive, tout ça. Et j'avais été surprise de voir que des fois il y a des collections qui font garçon d'un côté, fille de l'autre, et que la partie contraception était uniquement dans la partie fille, en fait. Dans la partie garçon, on parlait même pas de contraception, ni de grossesse, ni de cycle reproductif, de rien en fait, comme si ça les concernait, mais pas du tout.
Et à ce sujet, il y a quand même des hommes qui se mobilisent là-dessus. D'ailleurs, j'ai acheté une BD qui est vachement extra, ça s'appelle Les Contraceptés, Vraiment sur ça, sur la contraception masculine, sur l'histoire de la contraception masculine depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Il y a un certain nombre de comptes Insta qui parlent de ça et tout, mais c'est vrai que c'est encore très tabou, très compliqué, quoi. Et les hommes ont tendance à dire « oui, mais bon, bonjour, le confort », quand on va leur parler d'anneaux contraceptifs ou de trucs comme ça, comme si la pilule, ça n'avait pas des conséquences hyper graves sur la santé des femmes. Enfin, c'est quand même hallucinant, quoi.
Ouais, et on peut aussi parler de la méconnaissance autour de la vasectomie. Il y a eu une histoire là ces derniers jours qui a pas mal tourné sur les réseaux sociaux, voilà, d'un monsieur qui a documenté voilà sa vasectomie.
Donc, vasectomie, juste pour les personnes qui connaîtraient pas, c'est une opération qui consiste en fait à couper. Alors, je suis pas experte en bio, mais en gros les canaux qui amènent le sperme à l'extérieur, en gros. Et en fait, souvent c'est vu comme une façon d'enlever la virilité aux hommes, parce que censément ils pourraient plus éjaculer, alors que c'est absolument faux. Ça rend juste le liquide séminal qui sort pendant l'éjaculation sans spermatozoïde, en fait. Ça n'enlève ni plaisir ni aucune capacité sexuelle aux hommes.
Ouais, absolument. Et donc ce monsieur pourtant a subi vraiment un tombereau d'attaques en mode bah tu perds ta virilité, on t'a coupé les couilles, etc. Enfin, il y a vraiment des personnes, je pense, qui littéralement pensent qu'on coupe les testicules, quoi, quand on fait une vasectomie, alors que absolument pas. Donc il y a aussi, je trouve, un écart énorme de culture, de connaissances autour de ces sujets-là aussi. Voilà, il faut vraiment encore faire de l'éducation, parce que là ça va pas du tout, quoi.
D'autant que c'est des techniques qui sont très utilisées dans certains pays, notamment au Canada, aux États-Unis, qui sont tout à fait
banalisé, ouais. Voilà.
Allez, on va passer à un autre témoignage qui nous a particulièrement émus, Elsa et moi. Alors attention, parce qu'on va parler de dépression du postpartum. On dit souvent que l'amour d'un enfant, ça vient tout seul. C'est l'instinct maternel, tout ça, on a ça dans les gènes. Eh bien, c'est pas du tout ce que Fadila a vécu.
Pour ça, moi, ce qui m'a marqué dans ton histoire, c'est le jour de la naissance de ton premier enfant. Qu'est-ce que tu as ressenti, la relation avec lui, et pourquoi ?
Bonjour, moi c'est Fadila, j'ai 47 ans. Je viens de la Castellane, 16e arrondissement. Oui, quand j'ai accouché mon fils le premier, c'était pour moi la peur. C'était comme une angoisse, comme une peur. Et pourtant, je le voulais. Je voulais avoir cette grossesse et tout, j'ai choisi. Mais la peur de la responsabilité, parce que à ce moment-là, j'ai pas compris c'est quoi. Pourquoi je refusais. J'avais peur quand mon fils était, quand je l'ai pris pour l'allaiter, il avait les yeux directement, le regard il avait vers moi directement, et je m'échappais, mon regard s'échappait, parce que j'avais une peur de responsabilité. J'avais peur de cette responsabilité, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Mais après, quelques semaines après, je me suis redressée, je me suis dit c'est pas normal que je m'échappe, que si je suis en dépression, je suis pas bien et tout.
Donc en fait, t'as été noirieur et t'as pu surmonter cette épreuve de la peur. Et comment tu as fait ? Donc qu'est-ce qui t'a donné cette force en toi de pouvoir surmonter cette peur ?
Je
rappelle la peur de son bébé, hein, qui le regardait droit dans les yeux.
Au fait, je me suis dit, c'est un ange qui a rien demandé. C'est un bébé, c'est à moi, il a personne. Il a personne au monde que moi. Donc si je le lâche, c'est une catastrophe.
Et il a 19 ans aujourd'hui, c'est ça. Et c'est lui qui te regarde et qui t'aide maintenant, c'est ça ?
Aujourd'hui, c'est lui qui me regarde et c'est moi qui le regarde. Et je cherche toujours son regard et je ne peux pas rester sans voir mon fils. Aujourd'hui, c'est lui qui me donne la main, qui me tient, qui est là pour moi, qui m'accompagne, qui m'a aidé dans ma dépression. C'est lui qui m'a... c'est la lumière de ma vie. C'est lui ma vue. C'est lui la lumière.
Très bien. Et ton mari dans tout ça, donc du coup, pendant que toi, tu ne regardais pas ton enfant, est-ce que lui le regardait ? Est-ce qu'il a pris dans ses bras ? Est-ce qu'il t'a aidé ?
Alors mon mari, il prend pas dans les bras, il a jamais pris les enfants dans les bras, donc il a peur de prendre des bébés dans les bras, jusqu'à qu'ils grandissent, qu'ils commencent à marcher. Et pour dire que le mari dans tout ça, c'est pour moi c'était c'est il a fait l'enfant, c'est tout, il a aidé à faire l'enfant, c'est tout.
Donc t'avais encore notre enfant plus de ton bébé, quoi.
Oui, j'ai fait une fausse couche à la deuxième. Après, en troisième, j'ai eu un petit garçon. Et le quatrième, malheureusement, j'étais enceinte d'une fille à 6 mois, je l'ai perdue. Donc c'était affreux.
Est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être l'État, les médecins, l'environnement autour de toi, autre chose aurait pu t'aider pour surmonter cette épreuve ?
Moi, je reproche le manque de professionnalisme de l'hôpital. Quand j'étais, quand on m'a annoncé que j'étais, quand j'étais enceinte, que je suis partie au service de grossesse à risque, et le côté psychologue, psychologique, ils l'ont pas pris en compte. Et jusqu'à le jour où j'ai perdu le bébé, que je suis partie à la que j'accouchais un bébé mort, j'étais pas suivie. J'étais à l'hôpital pendant 3 jours. On m'a sortie et je faisais des va-et-vient à l'hôpital tous les jours. J'appelais les pompiers, j'appelais le SAMU, j'appelais, et il m'a jamais soutenu moralement. C'est moi qui a été chercher un psychologue. C'est moi qui est parti chercher, qui m'a dit que j'étais. Il m'a expliqué que j'ai fait une dépression, que c'était pas normal qu'on m'a pas suivi à l'hôpital, que j'allais à l'hôpital, qu'il me disait pas que c'est une dépression parce que j'avais la tension qui montait, le cœur qui battait trop vite. Je comprenais pas où j'étais. J'avais les yeux fermés. Et c'est malheureux qu'ils ne m'ont pas choisi et soigné.
Voilà. ok, on essaie de reprendre la parole après ça. Bon, là, on termine vraiment sur un défaut de prise en charge. Et ce matin, donc, quand on a fait réécouter ce témoignage aux femmes qui étaient là à l'atelier, ça a vraiment été un débat parce que toutes les femmes avaient des histoires différentes d'accouchement, de prise en charge postpartum. Et sur un même hôpital, il y a des femmes pour qui ça se passe très très bien et des femmes pour qui c'est la catastrophe. On a vraiment cette impression un peu de loterie de la prise en charge des femmes en postpartum. Avec, enfin pour les femmes, pour nous en tant que patientes, cette conscience que il y a un problème à l'hôpital, notamment à l'hôpital public de moyens, que souvent c'est des que souvent en fait les soignants, les soignantes n'ont pas les moyens de bien s'occuper de nous, mais au final c'est sur nous que ça retombe en fait, clairement quoi. Enfin là, Fadila nous l'a raconté, elle a passé plusieurs de sa vie en dépression parce que entre sa dépression du postpartum plus une mauvaise prise en charge de ce deuil périnatal, ça a été dramatique pour elle. Ça a été un combat pour elle de se sortir de ça. C'est elle toute seule en fait qui a réussi à trouver la force d'aller voir un psychologue et guérir de tout ça. Toi, c'est quelque chose que tu as vécu aussi, cette dépression du postpartum. Est-ce que dans la prise en charge médicale, à ton avis, il y a quelque chose, un point quand même sensible?
Oui, alors évidemment, moi j'ai eu la chance d'être très très bien accompagnée dans ma propre dépression, d'avoir autour de moi les bons interlocuteurs, les bonnes interlocutrices, en particulier ma sage-femme. Mais c'est vrai que comme j'avais fait un accompagnement global, donc accompagnement global, ça veut dire qu'une seule personne, en général une sage-femme, nous suit durant toute la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Du coup, c'est vrai que ça crée un lien particulier avec le soignant ou la soignante qui nous suit. Du coup, moi, c'était mon cas et ça m'a permis d'être hyper bien accompagnée, très bien dépistée, vite orientée. On habite à Marseille, il y a une unité mère-bébé ici. Enfin voilà, il y avait un espèce d'ensemble d'étoiles qui s'alignaient pour moi, qui ont fait que ça s'est bien passé. Mais je ne suis pas du tout... l'exemple le plus répandu, la plupart du temps, dans ce genre de situation, les femmes ou les hommes plus rares qui le traversent, ils ne sont pas forcément plus rares, mais encore plus mal dépistés, donc les personnes qui le traversent le vivent dans une espèce d'errance pendant des mois, voire des années. On voit, c'est ce qui s'est passé pour Fadila. Je pense qu'il y a eu un espèce d'effet cumulatif avec sa première dépression, où elle s'en est sortie un peu en mode « bon ben allez, mon bébé est là, j'essaye de me reprendre », mais en fait elle a pas vraiment, enfin du moins de ce que je comprends dans son témoignage, elle a pas vraiment eu d'accompagnement. Et quand le deuil périnatal est arrivé, je pense qu'il y a eu un effet cumulatif qui fait que bon, ça commence à faire beaucoup, mais clairement la prise en charge là de la fausse couche et puis du deuil et tout, enfin c'est hallucinant que ce soit si mal accompagné, surtout que vraiment elle était en demande, elle est revenue plusieurs fois, donc je pense que oui, il y a évidemment un problème de moyens, mais il y a aussi un problème d'automatisme, enfin comment dire, on n'a pas les automatismes pour prendre en charge les troubles psychiques autour de la maternité comme on prendrait en charge les troubles physiques. Je veux dire, une femme qui débarque avec une hémorragie du postpartum, on ne se questionne pas pendant 3 plombes pour savoir ce qu'il faut faire. On sait quoi faire et puis c'est tout et on le fait parce qu'on est conscient que c'est une question de vie ou de mort. Ben, la dépression du postpartum et ces troubles-là sont aussi des questions de vie ou de mort et il faut le dire quoi. Le suicide, c'est la deuxième cause de décès dans la première année de vie d'un enfant, donc c'est pas rien. Et la santé mentale de tout le monde, mais des mères en particulier, c'est encore le parent pauvre quoi, de l'accompagnement périnatal, et ça va pas du tout. Et pour moi, ce qu'elle a vécu, ça rentre vraiment dans le champ des violences obstétricales. Quoi. Voilà, une personne qui vit ça et qu'on laisse repartir chez elle sans accompagnement au bout de 3 jours, ben, pour moi, c'est de la violence sexiste, peut-être raciste aussi, je n'en sais rien, et voilà.
Oui, et d'autant que, enfin, tu le dis dans ton livre, c'est important d'apprendre aux charges, et c'est d'autant plus étrange, entre guillemets, qu'il n'y ait pas d'automatisme à prendre en charge ces pathologies, que ça touche énormément de mères, en fait. Enfin, on parle de dépression du postpartum, c'est pas une personne de temps en temps, je crois que tu dis c'est 15% des mères qui sont concernées.
Ben ouais, on a la chance d'avoir une enquête très très récente qui vient de sortir, là, et qui dit, attendez, je l'ai noté, 16,7%, donc on va dire entre 15 et 20, quoi. Donc c'est quand même pas rien. En effet, on est quand même sur une prévalence, comme disent les médecins, importante, qui nécessiterait... Alors après, ça évolue, hein, je veux dire, là, il y a eu une loi qui est passée pour qu'il y ait un entretien postnatal systématique autour de la 5e semaine, je crois, avec des médecins formés, des sages-femmes formées et tout. Donc bon, c'est pas mal de systématiser. Après 5 semaines... C'est très tôt, de mon point de vue. Enfin, c'est bien qu'il y ait un entretien à ce moment-là, mais il faudrait suivre bien plus longtemps, parce que ce dont il faut bien se rendre compte, pardon, dans ces pathologies-là, dans ces difficultés-là, c'est qu'on a déjà du mal à se les formuler à soi-même. Parce que, comme tu le disais en introduction du témoignage, on est encore tellement dans l'idée de l'instinct maternel, de tout va aller bien, c'est merveilleux, etc., qu'on a intériorisé ces normes-là, nous aussi, en tant que mère. Et donc... le fait de se formuler à soi-même qu'on va mal et qu'on n'y arrive pas et qu'est-ce que c'est et machin et on nous dit que c'est les hormones et pourtant on pleure tout le temps et on voit bien que c'est pas les hormones et tout, bah, pour le comprendre pour soi-même déjà c'est compliqué et ensuite en parler à l'extérieur et demander de l'aide et savoir vers qui s'orienter c'est encore plus compliqué, donc tout ça prend du temps.
Et on va passer à la warrior suivante. Elsa, tu nous présentes Égère.
Oui, alors parfois, ça se passe tellement mal après l'accouchement dans le couple. Je crois qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi dans les premiers mois.
Un certain nombre.
Voilà.
ou à minima, grosse dispute.
Donc, Égère nous raconte comment elle a pris cette décision.
Moi, quand je me suis séparée de mon mari, je me suis retrouvée tellement bien, finalement, dans mon appartement, toute seule avec mon enfant, alors qu'il avait... j'ai commencé à me séparer à 3 mois déjà. Après, j'ai fait 6 mois, je retournais, j'allais, je venais. Mais je me suis dit, non, je suis trop super heureuse d'être toute seule dans mon appart, sans cette salle. Tout était calme, bien rangé, avec mon enfant. Je pouvais l'aimer, il pouvait m'aimer, on pouvait tout partager ensemble, tranquillement.
Et tu n'avais pas besoin d'une présence d'un homme auprès de toi, parce que la maison avec les enfants, c'est propre et tout, c'est bien. Mais la femme, en général, elle a besoin toujours d'une présence d'un homme à côté.
Pas à ce moment-là, j'avais pas besoin, là j'avais tellement vécu des choses négatives avec lui que là, quand j'ai eu mon enfant, je voulais vraiment être seule avec lui, pouvoir l'élever avec ma façon de voir à moi.
Et après, tu as décidé de refaire ta vie, c'est quoi qui t'a fait changer cet avis?
Alors avant d'avoir changé de vie, déjà, j'ai voulu faire un autre enfant avec le même homme pour avoir des frères de sang. Et en pensant que plus jamais je me remarierais, parce que pour moi, il y avait, les hommes, ça servait à rien. Il n'y avait pas de prince charmant, c'était faux. Et donc, j'ai fait un autre enfant d'abord avec lui. Donc, j'ai requitté encore mon ex-mari. Et je me suis remariée justement au bout de 6 ans de vie seule. Je me suis dit, bon, ben, maintenant, je suis une femme et j'ai besoin d'avoir un homme à mes côtés le soir pour me réchauffer, pour avoir mon intimité et être heureuse dans mes vieux jours quand mes enfants auront grandi ou même dans ma jeunesse.
Et est-ce que tu as trouvé l'homme charmant, le prince charmant, quoi?
Oui, le prince charmant. Bon, il est toujours un peu boiteux, mais... Mais il est très charmant, celui-ci. Beaucoup plus charmant déjà que l'autre, beaucoup plus respectueux, beaucoup plus d'amour et plus tourné vers moi et vers mes enfants.
Bon, bah, les hommes, ça sert pas à grand-chose, mais si vraiment vous en voulez, vous les trouverez au rayon bouillotte
pour réchauffer la nuit. Moi, ce qui m'a intéressée aussi dans ces témoignages, c'est que j'ai quand même très souvent entendu des femmes dire que leur mec, c'était comme avoir un deuxième enfant. Et que quand ils étaient que à deux, ça passait. Elle faisait beaucoup de choses à sa place et tout, la charge mentale classique et tout. Mais qu'avec un enfant, là, tout d'un coup, ça devient très visible que l'homme ne participe pas et que, enfin, il est juste une charge, en fait. Comme elle disait, elle s'est retrouvée seule, elle était super heureuse tout d'un coup.
Ouais. Moi, il y a, ouais, c'est ça. Alors, pour répondre sur le truc de se retrouver avec un enfant en plus, mais je l'ai lu un nombre incalculable de fois sur des groupes et tout, des meufs qui disent, ah bah, depuis que je suis séparée, en fait, mais la vie, elle est tellement plus facile. En fait, mère solo, c'est plus facile que mère en couple, des fois.
Ce qui sent quand même hallucinant.
Ouais. Ce qui paraît hallucinant, ouais, parce que il y a un truc d'immaturité parfois du partenaire qui fait qu'on a l'impression d'avoir en effet un gosse supplémentaire à gérer. Du coup, pourquoi faire ? Et donc, ouais, c'est quand même hallucinant de se dire que le partenaire est un autre enfant à charge et du coup qu'on est mieux tout seul. Après, tant mieux. Hein.
Mais... Il y avait quelque chose qui ressortait aussi dans ce qu'elle disait, c'était cette difficulté quand même d'être seule avec des enfants. À un autre moment, enfin, quand on a discuté avec elle, il y avait aussi cette envie d'être avec un autre adulte que le face-à-face avec deux, trois, quatre enfants. Il est aussi posant autant qu'on puisse aimer s'investir dans l'éducation des enfants, quand on est par exemple en congé maternité, en congé parental ou qu'on est mère au foyer, ce huis clos avec les enfants peut être extrêmement difficile à vivre aussi.
Ouais, clairement. Et en fait, ce que je trouve très beau dans son témoignage, c'est qu'on voit bien comment en fait, la norme hétéro-patriarcale, quoi, elle voudrait nous faire croire qu'il y a un pack et qu'il faut prendre tout le pack d'un coup ou rien. Enfin, il y a une espèce de truc, c'est le mari, les enfants dans la même maison avec pourquoi pas une voiture familiale et un chien, quoi. Enfin voilà, il y a une espèce de truc global et on voit bien avec cette histoire que ben non, on peut faire deux enfants avec le même homme mais ne pas vivre avec lui, aller, venir, être à un moment donné de sa vie très heureuse et très épanouie toute seule avec ses enfants dans une maison propre et bien rangée et c'est super. Alors c'est vrai que c'est le genre de témoignages qui sont pas du tout valorisés, mais pourtant ça existe. On peut kiffer à un moment donné de sa vie de se consacrer beaucoup à ça, et à un autre moment de sa vie, ben non, on va avoir envie de retrouver pourquoi pas une vie sentimentale, de revivre avec quelqu'un ou pas. Et je trouve que c'est ça qu'elle nous montre aussi, le fait que le pack, on peut prendre des trucs dedans, mais aussi en laisser, quoi. Et ça, je trouve ça super puissant. Et voilà. Mais en effet, sur ce truc d'avoir envie d'être avec des adultes, ben oui, quand même. C'est sûr. Et d'autant plus qu'en fait, les enfants, c'est quand même ultra exigeant. La plupart du temps, on essaye de faire bien pour eux et elles. Il me semble. Et du coup, oui, ça prend la tête, quoi. Mais pour le meilleur et pour le pire, mais c'est vrai qu'on a juste besoin des fois d'être avec des adultes parce que les relations inter-individuelles avec d'autres adultes, elles sont quand même moi je trouve moins exigeantes. On n'est pas en train de se demander si on fait bien, si on fait assez, etc. etc. quoi. Alors qu'en tant que parent, surtout dans notre époque contemporaine, on s'impose quand même des standards très élevés. Donc du coup, c'est d'autant plus important et salvateur, quoi, de pouvoir des fois s'extraire de ce truc et d'être juste, de se reposer dans d'autres types de relations.
Et toi, dans les échanges que tu peux avoir avec des femmes qui peuvent être, donc, comme tu disais, futures mères ou des personnes qui se posent des questions, est-ce que tu as l'impression justement qu'il y a une émergence vraiment de nouveaux modèles, que tu as des nouvelles générations qui se disent en fait tout est possible, comme tu disais, en fait tu n'es pas obligé d'avoir le modèle, le pack avec tout inclus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de gens, notamment de femmes en tout cas, qui se disent ouais, bah, peut-être je vais avoir un enfant et puis peut-être 3 ans après on sera séparés et puis peut-être on se remettra ensemble, peut-être qu'on n'habitera pas ensemble, enfin qu'il y a en fait plein de façons de faire, quoi.
Ouais, je pense qu'il y a clairement une aspiration de plus en plus grande, de plus en plus de femmes et de personnes à vivre, à essayer quoi, des modes de vie différents, qu'il y a même un besoin, je crois, parce que c'est très sclérosant quand même, cette famille nucléaire où on est juste deux avec les enfants et tout. Donc il y a une aspiration à vivre autre chose. Après, je pense que c'est compliqué en fait à mettre en œuvre. Donc est-ce que en pratique, oui, j'imagine qu'en pratique, c'est plus répandu aujourd'hui que dans les années 60, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gens qui arrivent à le mettre en place que de gens qui en rêvent. Parce qu'il y a des choses qui, il y a des freins concrets. Il y avait une conversation là sur un groupe de parents sur Facebook ces derniers jours où il y avait une personne qui disait qu'elle aimerait cohabiter, mais en fait décohabiter avec son compagnon et père de ses enfants, mais en fait juste c'est compliqué en termes de CAF par exemple. Des trucs comme ça, si on veut pas perdre ses aides sociales, enfin des fois il y a des trucs compliqués parce que on ne rentre pas dans les cases quoi. Donc ça, la décohabitation, bah ça veut dire pouvoir se payer de loyer, qui peut faire ça? Enfin voilà, donc ça pose des problèmes concrets. Donc auxquels il faut trouver des solutions. Et je pense qu'on va en trouver de plus en plus, inspiré aussi par d'autres familles, les familles queer qui peut-être par la force des choses, des fois, inventent d'autres modèles et donc peuvent être inspirantes aussi pour des familles tout à fait dans la norme. Voilà, mais je crois que déjà, puisqu'il y a une aspiration de plus en plus grande, il va y avoir des réalisations de plus en plus diverses et importantes, mais ça prend du temps, quoi, parce qu'on n'a pas de modèle, on ne sait pas comment faire.
Alors, parmi les thèmes qui ont été abordés ce matin, il y a aussi le thème, évidemment, de l'éducation des enfants, de comment on éduque. De la discussion, ce qui est ressorti, c'est quand même beaucoup, encore une fois, les femmes, les mères qui le prennent en charge. On avait notamment une des participantes qui disait que pour elle, c'était très important que ses enfants apprennent plusieurs langues. Et apparemment, il met beaucoup d'énergie à ce que ses enfants apprennent plusieurs langues. Et son mari lui dit « Ah, c'est bon, pourquoi tu fais ça? T'exagères, machin. » Mais que par contre, quand c'est en public, en famille, est très, 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 très content de dire « Ah oui, ça c'est mon fils, t'as vu comme il parle bien anglais. » Donc, il n'est pas là au quotidien, mais derrière, il est content de pouvoir récupérer les lauriers. Et une autre question aussi autour de l'éducation, c'est notamment les stéréotypes. Il y a un constat, c'est que c'est très, très, très compliqué encore aujourd'hui, alors qu'on dit on est en 2022, normalement quand même, on est sorti des années 60, des clichés, mais non, absolument pas. Sortir des stéréotypes genrés, c'est quasiment impossible. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons, la dinette pour les filles, les petites voitures pour les garçons. Et le pire, c'est que souvent, l'entourage n'est absolument pas aidant là-dessus. Ils s'en mêlent souvent, justement pour imposer des modèles très, très, très genrés. Et c'est ce que l'une des participantes de ce massin nous a partagé.
Le petit garçon, il ne peut pas jouer à la poupée. Ah non, c'est n'importe quoi. Ce sera un futur gay, c'est pas normal. Après, il va se mettre à faire de la danse, à chanter. Non, mais c'est quoi ça? Ça ne va pas être un homme.
Et la fille, elle ne peut pas jouer avec le camion de pompier.
Ah ben non, ben non c'est pareil.
Oui. Bah, ma fille aujourd'hui, mon mari, il me l'a dit sans faire exprès. Il m'a dit, ah ben tu sais, il va falloir qu'on lui achète des poupées. Je dis pardon, non, j'achète pas de poupée, elle joue avec son frère, avec de la pâte à modeler, avec des Playmobil, avec des voitures. Pourquoi je lui achèterais des poupées?
Tu peux lui acheter à Action Man. Bon, mais... je sais plus si ça existe maintenant, mais Action Man, c'est une poupée.
Je sais pas, mais attends, parce que du coup, j'avais entendu la même chose sur mon fils quand il était petit, où ma belle-mère, elle me dit, ah, tu le laisses jouer avec le poupon? Bah, il va bien falloir un jour qu'il soit papa, non? Il faut, ouais. Faut qu'il s'exerce dès maintenant. Et c'est vraiment pesant. Et on est tout le temps obligé de se justifier. Moi, je rentre quasiment dans un combat où je me dis « Ah, moi, ce modèle d'éducation, sincèrement, il ne me convient pas. Je fais mes propres recherches et je me renseigne. Et je ne veux pas m'appuyer que sur les traditions. Je mélange un peu de tradition, un peu de religion, un peu de science, un peu de ma sauce à moi, tout simplement. Et voilà. »
Ma sauce à moi, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on est prise entre... 1000 injonctions, là on a parlé donc des injonctions genrées, mais il y a aussi les injonctions à la parentalité positive qui peuvent parfois, donc ça c'est notamment pas crier sur ses enfants, pas ceci, pas cela, mais l'injonction aussi à les faire manger bio, à qu'ils aient des activités, qu'ils fassent de la musique, qu'ils fassent du sport, qu'ils soient épanouis, que nani, nanana. Il y a énormément d'injonctions qui viennent de partout que parfois... comme dit cette femme, hein, en fait, des fois, juste il faut se recentrer et dire mais moi, c'est quoi ma sauce à moi, ma sauce éducative à moi, quoi.
Ouais, absolument. Moi, je me souviens très bien que quand au début de ma maternité, souvent les gens avec une intention bienveillante me disaient mais fais comme tu le sens. Et moi, je sentais rien, en fait, parce qu'il y avait tellement de signaux partout, divergents, qui m'arrivaient de toutes parts, que, en fait, je n'arrivais plus à sentir quoi que ce soit, parce que j'étais déconnectée de ma propre expérience et de ce que j'étais en train de vivre. Donc oui, en effet, je pense que c'est une clé de réussir à se connecter un peu à soi, à ce qui compte pour soi, en fait, et à ce qui nous importe, en mettant un peu de notre culture, un petit peu de science, comme elle dit très bien, en mettant, voilà... Du bon sens, et ce qu'on a envie. Après, on oublie beaucoup de parler des enfants, je trouve, mais en fait, c'est pas des petites poupées, quoi. Donc, ils ont aussi leur goût, leurs aspirations, ils ont... ça me touche ce sujet-là des stéréotypes et du rose et tout, parce que en fait, moi, ma fille, aujourd'hui, elle a 6 ans. Je peux pas la forcer à mettre des vêtements qu'elle n'a pas envie de mettre, par exemple. Et je sais pas du tout mon intention, quoi. Donc, à un moment donné, on est quand même un peu aussi obligé de faire en fonction des goûts et des aspirations de son enfant. Et c'est aussi transmettre quelque chose, à mon sens, de lui dire, tu peux exprimer ta personnalité au travers de tes vêtements. Du coup, ce serait bizarre que j'impose au nom de la lutte contre les stéréotypes de genre un certain nombre de vêtements qu'elle n'a pas du tout envie de mettre, et après lui dire mais c'est important que tu sois qui tu es dans la vie, girl power, quoi. Enfin, je trouverais ça vraiment super bizarre. Donc en fait, on doit dealer aussi avec beaucoup beaucoup d'éléments, à la fois de nous, de qui on est, à la fois de qui est notre enfant ou qui sont nos enfants, notre partenaire avec qui, s'il est là ou elle est là, eh ben, il ou elle a aussi ses opinions, donc faut faire avec. Et puis avec ça, il y a toute la société. Donc en fait, c'est pas si simple de faire sa propre sauce avec tout ça, quoi. Mais ce qui est évidemment certain, c'est que les injonctions qui viennent de toutes parts, dont il faut quand même se souvenir sur les aspects des jouets et tout, et aussi sur l'aspect de l'éducation. Des règles d'éducation, quelles qu'elles soient, il y a beaucoup, beaucoup aussi d'enjeux commerciaux derrière tout ça. Le but, c'est de vendre des jouets, le but, c'est de vendre du coaching, de l'accompagnement, des livres. Enfin, je suis la première à avoir écrit un livre, donc voilà, mais en tout cas, il y a quand même aussi, il faut se souvenir qu'il y a des enjeux aussi derrière et que c'est pas juste... Voilà, si Decathlon, ils font tout en rose et en bleu, en fait, ils en ont rien à faire. C'est pas qu'ils sont pour les stéréotypes, c'est juste que ça leur apporte plus de thunes, c'est tout.
Oui, et quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir dans ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi se dire que le fait d'offrir une éducation non genrée à ses enfants, c'est très compliqué justement dans la société dans laquelle on est. Il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction. C'est vrai que souvent on peut entendre dans certains milieux féministes autour des questions de parentalité, c'est bon, comment on fait pour offrir à ma fille, à mon fils une éducation non genrée? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Sauf que en fait, nos enfants iront à l'école, iront peut-être à la crèche, chez une nounou, iront chez des copains et seront... moi j'ai complètement abandonné, par exemple pour ma fille, de ne pas l'habiller en rose, en fait, parce que pour moi c'est une bataille totalement perdue d'avance, et je me dis il y a d'autres choses sur lesquelles j'ai plus de prise que ça, parce qu'il y a des vêtements qu'on nous donne, des vêtements qu'on nous offre aussi, en vrai ça coûte de l'argent quand même, les vêtements pour bébé, ça va tellement vite, et de peut-être, enfin ce que j'essaye de me dire, c'est moi dans ma tête je voulais pas l'habiller en rose avant, mais ça c'était avant d'avoir un enfant, que ces injonctions ça devienne pas une nouvelle injonction, en fait, de faire une éducation féministe à tout prix, et que on puisse aussi des fois juste souffler un peu, quoi.
Oui, absolument. Voilà, le truc de choisir ses combats, c'est tout le temps vrai, d'autant plus qu'on est tout le temps censé tout faire et tout faire bien, donc à un moment donné c'est pas possible. Et je pense qu'il y a, pour certaines personnes, c'est très 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 important, c'est central pour elles. Et si c'est central pour toi, mais vas-y et donne-toi au max pour essayer de faire ça. Et si d'autres choses sont centrales pour toi, mais go, en fait. Mais juste, en effet, il ne faut pas que ça devienne une nouvelle injonction. Puis surtout que, comme tu le disais, on vit dans une société qui est genrée partout, tout le temps. Et en fait, il faut relativiser. C'est-à-dire que oui, ça aura un impact, les jeux et les vêtements, par exemple, qu'on choisit pour nos enfants, mais ça a un impact modérée par rapport à tout l'univers et tout la société globale dans laquelle on vit. Et c'est comme pour l'écologie, les petits gestes, il faut les faire, ils ont de l'importance, il ne s'agit pas de les mépriser, mais ça s'inscrit dans un combat tellement plus large qu'il faut juste remettre les choses au bon niveau, comme tu le disais, pour être détendu et se reposer.
Et on va écouter maintenant Karima, Elsa, c'est ça, hein, qui éduque son garçon au féminisme, finalement.
Tout à fait, et elle nous a notamment parlé de comment elle parle avec lui du sujet des règles.
En fait, je veux juste que... Pour mon fils, je veux qu'il respecte la femme, qu'il respecte sa maman, qu'il respecte sa sœur, qu'il respecte sa copine de l'école, qu'il respecte sa patronne s'il en a un jour une. Bref, qu'il respecte toutes les femmes autour de lui, et on peut pas... lui inculquer ça sans lui expliquer qu'il y a certaines choses qui se passent et dont on parle jamais. Donc, parler des règles, pour moi, c'était quelque chose de très important, qu'il comprenne qu'il y a une période où la femme, elle n'est pas tout à fait en forme, selon son corps. Il y a des femmes où, pour elles, tout va bien, mais il y en a d'autres où vraiment, ça ne se passe pas super bien. Et je voulais qu'il comprenne ça, qu'il comprenne que c'est quelque chose de tout à fait normal, que si un jour, il voit que ses sœurs... ont mal au ventre, qu'elles sont de mauvaise humeur, qu'ils puissent être là pour elles, les rassurer, leur servir une infusion chaude, je sais pas, aller leur acheter les serviettes hygiéniques du coup, parce que nous, c'était hors de question que déjà qu'on dise qu'on a nos règles à la maison. Et voilà, du coup, c'était très important. Et un jour, j'ai eu mes règles, je tire la chasse et lui, il rentre juste après moi dans les toilettes et il voit qu'il y a encore des traces de sang. Et il me dit, maman, il panique, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a saigné, viens regarder. Je lui dis, oui, t'inquiète, c'est moi. Il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il a eu peur. Je lui dis, oui, c'est juste mes règles, c'est tout à fait normal. Il me dit, mais c'est normal qu'il y ait autant de sang? Je lui dis, tout dépend, chaque femme a un corps différent. Je lui explique et quelques mois plus tard, il me demande, maman, comment tu mets ta serviette? Qu'est-ce que tu mets? Oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu mets pour que le sang ne coule pas? Je lui dis, j'achète des serviettes hygiéniques. Du coup, je lui ai montré les serviettes hygiéniques, on a pris une culotte, je lui ai montré comment on met dans la culotte pour qu'il comprenne comment ça se passe. Je lui ai dit, tu les vois pas parce que j'essaie d'être discrète, de pas vous déranger. Avec ça, c'est comme si tu t'essuyais après être allé au sel et que tu me laisses le reste de tes selles dans la chasse. Donc, par respect à vous, je débarrasse mes choses. Mais c'est vraiment le point principal, c'était qu'il puisse être présent pour ses sœurs et sur la langue respectueux des autres femmes quand elles auront des moments comme ça et qu'ils comprennent surtout que c'est la nature humaine, qu'il n'y a pas de tabou, que comme lui... il peut avoir des choses de garçons que je ne connais pas forcément. Les filles aussi, elles ont leurs petites choses. Et si on les connaît, c'est très bien.
Allez, masterclass de comment parler à son fils de 8 ans. Parce qu'il a 8 ans, son fils, des règles. Bravo Karima, franchement, c'était super
trop
inspirant.
Forte, trop forte. Qu'est-ce que t'en penses, Fabienne?
Ouais, j'adore ce témoignage, c'est super beau. Mais c'est beau déjà sur l'éducation au corps et de l'histoire de pas de tabou et tout. Enfin, je trouve qu'elle est géniale, elle a l'air d'expliquer ça très bien et très simplement, en fait, avec naturel et tout. Mais ce que je trouve magnifique aussi dans ce témoignage, c'est en particulier parce que c'est un petit garçon, comment elle essaye de lui transmettre l'idée du care et l'idée de faire attention à l'autre. De peut-être lui venir en aide, c'est un grand mot, mais en tout cas être entourant, quoi, englobant, attentif, voilà, merci, attentif à ce qu'il ou elle est en train de vivre et pouvoir s'ajuster. Et ça, je trouve ça merveilleux que à travers cette question là elle ait fait ça, parce que puisqu'on parlait d'éducation non genrée, féministe et tout, il y a quand même beaucoup la question de l'éducation des petits garçons et comment on essaye de leur permettre de se construire avec des virilités peut-être moins toxiques et peut-être moins rigides aussi. Et ça, ça me paraît fondamental, quoi, l'éducation au care et d'être capable d'être attentif à l'autre, empathique, à l'écoute et tout. Donc voilà, c'est génial, j'adore.
Parce qu'en fait, il y a plein de qualités qu'on associe au féminin, notamment le fait de prendre soin des autres, alors qu'en fait, si on dégenrait les qualités, déjà, on pourrait dire, on garde que ce qui est cool, et les trucs genre la violence, déjà, ça dégage. En fait, on n'a pas besoin d'apprendre ça aux gens ou de l'encourager, ce qui est clairement le cas chez les garçons. Les rites de passage, entre guillemets, même dans la cour de récré entre garçons, c'est beaucoup quand même autour de la violence. Donc, y a peut-être ce truc-là, ouais, de dégenrer les qualités. Arrêter de dire que ça, c'est masculin, ça, c'est féminin. Et juste dire, est-ce que c'est une qualité humaine qu'on a envie d'entretenir, de transmettre, d'apprendre ou pas, quoi.
Ouais, totalement. Et ça me paraît fondamental, quoi. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À mon avis, c'est la première brique, elle est là, quoi. C'est apprendre tous et toutes, hein, vraiment, l'attention à l'autre, l'empathie. Voilà, c'est vraiment la base, quoi.
Et maintenant, on va entendre une auditrice. Ça, c'est pas un des témoignages qu'on a tiré des ateliers qu'on a fait avec les femmes marseillaises. Donc, c'est Lina qui nous a enregistré un vocal et qui nous l'a envoyé sur WhatsApp. Alors, c'est vrai que quand on est féministe, ça ouvre les yeux sur tout un tas de choses, et notamment sur le sexisme qui s'exerce partout, tout le temps, et notamment sur les violences. On connaît la fréquence des violences. Et forcément, quand on a des filles, on s'inquiète pour elles. Et Lina s'est beaucoup interrogée sur comment on fait pour vivre avec ça.
En fait, j'aurais aussi aimé parler de comment je deal avec le fait qu'il y a de grandes chances pour que ma fille, en tant que fille, soit agressée au cours de sa vie. Subissent en tout cas des violences sexistes ou sexuelles au cours de sa vie. Pour y avoir beaucoup réfléchi, aujourd'hui en tant que parent, je pense que malheureusement je ne pourrais jamais éviter toute situation risquée à ma fille, et ce n'est pas le but, dans le sens où c'est important qu'elle expérimente et qu'elle vive sa vie. Mais du coup, je m'attache à lui proposer un espace safe, en fait, où j'espère qu'elle se sentira en capacité, le jour où ça arrive, si ça arrive, d'en parler, de se défendre et de travailler le truc pour limiter le trauma, en fait. Je trouve que c'est un aspect hyper important quand on est féministe et du coup consciente des violences qui sont faites, de vivre avec cette peur-là que ça arrive à nos filles. Je parle de ma place, évidemment. Et du coup, j'essaye au maximum de construire une relation avec elle qui fasse qu'elle se sente en sécurité pour parler.
Moi, je trouve ça hyper, hyper courageux, Lina, de regarder ça en face, en fait. Sans...
Oui, c'est très mature d'arriver à se dire, bon, pragmatique, en fait, ça va probablement arriver. Donc, comment on fait pour avoir une réaction en accord avec ses valeurs aussi et faire en sorte que ce soit safe pour son enfant,
ouais. Ouais, c'est le drame du féminisme, quoi, un peu de chausser ces fameuses lunettes et qu'après on peut plus enlever, quoi. Et du coup, quand ça touche à nos propres enfants, et ben c'est compliqué et c'est dur parce qu'en effet, ça peut arriver, ça a de fortes chances d'arriver, comme elle le dit. Du coup, comment on fait, quoi ? C'est vrai que je crois que c'est Virginie Despentes qui parle bien de ça dans King Kong Theory, quoi, du fait que ben tu sais que ça risque d'arriver, donc ben tu peux pas t'empêcher de vivre, alors tu vis avec. Il y a un côté un peu qu'on peut pas empêcher les choses d'arriver, mais que on peut, comme elle le dit, construire autour de nos enfants un espace de confiance, quoi, pour qu'ils puissent s'exprimer si nécessaire. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je le trouve hyper touchant, ce témoignage, parce qu'il y a ce côté à la fois de force et d'impuissance en même temps, quoi. Donc, je trouve ça magnifique. Et après, elle parle de la difficulté de se projeter avec une petite fille qui, peut-être, plus tard, vivra des violences. Après, il faut bien penser que, quand même, je pense pas que ce soit plus simple de se projeter avec un petit garçon qui pourrait être un potentiel agresseur. Je pense que c'est aussi pas simple pour les parents féministes de dealer avec ça, et qu'il y a peut-être encore plus d'angoisse de se dire « il faut absolument que j'évite ça, évidemment ». Et que, dernière chose, garçons et filles, les deux peuvent vivre des violences, notamment dans dans le cercle familial, quoi, dans le cercle proche, l'inceste, ça touche tous les enfants, en fait. Donc, en fait, personne n'est à l'abri et on est tous avec ce truc encombrant, dont il faut qu'on fasse quelque chose. Et je trouve que ce qu'on est en train de faire ce soir, par exemple, se retrouver et en parler, c'est une chose qu'on fait contre ça.
Toi, tu as parlé de consentement avec ta fille déjà, ou comment tu abordes cette question étant donné qu'elle est encore très jeune ?
Ouais, en même temps, j'ai l'impression que les gens autour de moi, ils en parlent vachement plus tôt et plus, des fois plus facilement que moi. Moi, j'ai été quand même éduquée un peu dans le tabou des choses du sexe et des choses du corps. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de facile pour moi. Et pourtant, je suis féministe et je trouve ça super important. Mais j'ose dire que c'est pas simple pour moi, par exemple, d'employer les vrais termes, entre guillemets, sexe, vulve, vagin, clitoris. Enfin, c'est des choses qui me demandent des efforts. Alors, je le fais, j'essaye de faire cet effort-là, mais je vois bien à quel point cette gêne, elle est intériorisée. Cette honte du corps, de mon propre corps que j'ai intériorisé, moi, c'est assez puissant, quoi. C'est assez fort. Et du coup, c'est hyper dur de pas transmettre. Alors, je fais vraiment de mon mieux. Et évidemment, il y a plein de moments, en fait, dans la vie où on parle de consentement sans nécessairement que ce soit lié au sexe. Avec un enfant très, 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 très tôt, en fait, il y a des comportements qui amènent à parler de consentement, vu qu'on les touche de toute façon très vite sans leur demander leur avis dès qu'ils sont bébés. Donc, on travaille du coup avec l'enfant en fonction de son âge, en fonction de ce qu'il peut en comprendre et en recevoir. Mais on travaille aussi avec les gens autour en disant « Non, mais ne touchez pas mon enfant, en fait, s'il vous plaît, sans lui avoir demandé son avis. » Et du coup, il y a plein des dizaines d'occasions dans la vie quotidienne de parler du consentement. Donc oui, j'en parle pour répondre à ta question, mais c'est important pour moi de témoigner du fait que même quand on est féministe et qu'on essaye de faire au mieux et qu'on a écrit un livre sur ça et tout, en fait, des fois, c'est pas simple parce qu'on trimballe avec soi tout un bagage à la con et qu'il faut aussi s'en débarrasser pour soi. Et ce que je trouve dur dans la maternité, dans la parentalité en général, c'est de devoir avancer pour soi-même en même temps qu'on avance pour et par son enfant, quoi. Enfin, qu'on doit accompagner son propre enfant, mais on l'accompagne tout en nous, en étant en chemin aussi, en construction, quoi. Donc, des fois, ça fait un peu de la panique, je trouve.
Ouais, et sur cette question du consentement, j'invite les personnes qui ne l'auraient pas encore écouté à écouter notre épisode qu'on avait fait sur l'éducation. Il y avait justement un témoignage là-dessus d'une mère qui avait bien expliqué à sa fille qui avait 2 ou 3 ans, je crois, enfin très très tôt, que son corps c'était personnel et qui donc savait très bien mettre les limites et dire aux personnes qui la touchaient non, mon corps c'est personnel, tonton. Voilà, donc c'est un épisode qu'on a fait il y a peut-être 2 ans que je vous invite à réécouter parce qu'il y a énormément de mères qui avaient partagé leur réflexion autour de l'éducation des garçons notamment. Et c'était super intéressant.
Oui, c'est vrai que sur cette question, il y a le fait d'apprendre à l'enfant à dire non aux adultes, mais aussi, du coup, rééduquer tout son entourage et dire non, tu peux pas l'attraper comme ça, tu peux pas le forcer à te faire des bisous, à te faire des câlins, tous ces trucs-là, parce que c'est là une pente très glissante et que c'est juste, par principe, c'est pas OK, quoi, de les forcer.
Et du coup, je trouve que c'est aussi très lié à la question de l'adultisme, parce que les enfants, des fois, ils sont aussi vachement pris dans un conflit de loyauté un peu, donc ils savent pas, parce qu'ils savent bien qu'on n'a pas le droit de les toucher sans leur demander. Et en même temps, c'est papy ou c'est mamie qui ne veut rien entendre alors que ça fait 20 fois qu'on lui a répété. Alors du coup, en fait, l'enfant, il voit bien qu'il y a une tension autour de cette histoire-là. Ça crée un moment de gêne, personne n'est à l'aise. Enfin, voilà, c'est vraiment des trucs. Il y a le principe avec lequel on est a priori tous et toutes d'accord, mais en fait, dans la vraie vie du quotidien, il y a plein de moments où en fait c'est compliqué, c'est plein de tensions, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire, quoi.
On va passer à la dernière partie de l'épisode, le temps passe vite. C'est la partie punchline, réplique qui est un peu plus fun, on va dire.
Essayer de se détendre.
Voilà. Donc, dans l'atelier qu'on a fait ce matin, on a joué à Moi, c'est Madame, donc, qui est un jeu inspiré d'Yes que j'ai créé avec Axel Gay, qui est game designer. Donc, on a repris plein d'attaques et de répliques de Yes pour créer un jeu de cartes. Le principe, c'est de s'entraîner à riposter contre le sexisme. Et donc, on a sélectionné quelques cartes et on a demandé aux participantes d'improviser des punchlines. Des punchlines de réponse. La première carte portait sur le contrôle de l'appétit des femmes.
J'ai eu la réflexion, tu prends trop de poids par rapport à, au petit, tu t'es devenu énorme. Et pareil, une fois, j'étais en train de manger chez mes beaux-parents. Ils m'ont dit, non, mais tu comptes engloutir jusqu'à quand ?
Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais en train d'allaiter mon fils, surtout. Il pompait vraiment tout mon lait. Et je sentais que j'avais besoin de manger. Et un jour, on se retrouve en famille avec la famille de mon mari. Et je me suis servi 3 fois une assiette de lasagne, de spaghetti avec des boulettes. Et toute la famille m'a fait la remarque. Eh ben, dis donc, tu manges bien, t'as bon appétit. Et j'avais envie de leur dire, mais en fait, c'est creux à l'intérieur. J'ai bon encore manger et je voulais encore me servir.
Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à la belle famille de Karima qui fait ce genre de réponse ?
Je voudrais faire attention à ne pas donner un avis non sollicité. Merci.
Je me trouve jolie en mode baleine.
J'ai des formes et des rondeurs, c'est pour réchauffer les cœurs.
Oui, t'inquiète, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Hein.
Tout simplement, je fais ce que je veux.
Exactement, bravo. Voilà. Je fais ce que je veux. Est-ce que tu as une punchline, Fabienne, par rapport à ça ?
Non, vraiment, je suis nulle en punchline. Je suis désolée, il faut que je vienne à un de vos ateliers pour m'entraîner parce que vraiment, je suis toujours très, très en peine de répondre du tac au tac sur ce genre de phrases. Je trouve qu'elles l'ont très bien fait. J'adore le. Qu'est-ce qu'elle dit ? J'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Ouais, ça, c'est parfait.
C'est ça. T'en fais pas pour moi. Ensuite, on a abordé la question du réveil pendant la nuit quand le bébé pleure.
Ton mec. Donc. Les boules qui assez pour moi quand le bébé t'appellera dans la nuit.
Ben le bébé je l'ai pas fait toute seule. Hein.
Ah ben les boules qui assez, je vais te les mettre ailleurs moi, tu vas rien comprendre.
Avec ton taux de cérumen dans les oreilles, tu n'en as même pas besoin.
C'est vrai que quand on a les oreilles sales, on n'entend rien, donc t'inquiète pas.
N'empêche, c'est un vrai sujet ça, les papas qui se réveillent pas la nuit, qui soi-disant entendent pas.
Soi-disant, ouais. Je ne sais pas par quel miracle. Il faut qu'ils nous disent comment faire. Je ne sais pas, oui, c'est un vrai sujet, en effet. Cela dit, on a le droit de mettre des boules caisses quand bébé pleure et qu'on n'en peut plus pendant des heures. C'est une technique qui peut fonctionner quand même, c'est pas interdit.
Ou mettre des boules caisses, ça aussi. Moi, ça m'arrive de mettre des boules caisses la nuit quand on alterne les nuits, justement, ouais. Pour ne pas se réveiller quand c'est pas mon tour. C'est ouais. Assez efficace aussi. C'est vrai que les boules qui est l'accessoire indispensable.
Oui, absolument. Et on n'y pense pas assez en cadeau de postpartum.
Et ben, il me semble que ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Fabienne d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors, pour suivre ton travail, on va où ? On fait quoi ?
Alors, pour suivre mon travail, on peut aller sur milfmedia.fr, qui est le site du média. On peut ainsi s'abonner à la newsletter, qui est une newsletter irrégulière pour Mère Vénère. Donc, ça veut dire que c'est bien vénère d'une part, mais que je ne spamme pas et que la newsletter arrive quand elle arrive, quand j'ai le temps, quand je peux, parce que je suis une daronne, donc c'est comme ça. Et puis, on peut me suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, milfmedia.
Voilà. Et on peut aussi acheter ton livre.
Et évidemment, on peut aussi acheter mon livre dans toutes les bonnes librairies et sur mon site internet Daronne et Féministe, c'est chez Solar.
Et ben voilà, on a toutes les infos. Merci à Eger, Odile, Taous, Géraldine, Fadila, Nora, Karima, Lina et toutes les femmes qui ont participé à nos ateliers. Merci de nous avoir confié vos histoires. Vous êtes des méga warriors. Merci à la mairie du 1-7 à Marseille pour l'accueil dans cet auditorium. Merci à Solidarité Femmes 13 et au CIDFF pour votre confiance. Merci en particulier à Émilie. Cet enregistrement s'intègre dans le cadre de Je crains des gains, une journée contre les violences faites aux femmes. Et merci à vous, public, on peut s'applaudir. merci à Harris pour la réalisation, à Florent pour la technique. Harris qui se cache derrière les kakémonos, il vous fait coucou. Yes, c'est un podcast de Warrior produit par les ateliers Pixel et Marie qui est dans la salle aussi. Vous pouvez réécouter cet épisode sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Yes, podcast, yes, avec
3S.
Hey! En attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours nous raconter vos histoires, oui, 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 en nous envoyant un vocal sur Insta ou sur WhatsApp. Donc sur WhatsApp, pour nous envoyer un vocal, notez bien notre numéro, c'est le 07 45 65 56 75. Je répète, 07 45 65 56 75. On attend vraiment toutes vos histoires, on les écoute et on en fait des épisodes de temps en temps. Depuis le temps que tu nous suis, tu le sais, on ne te lâchera pas. Tu es la meilleure des mères pour tes enfants. Tu es la meilleure des sœurs, la best copaine forever. Tu fais partie de la meilleure team, celle des Warriors, et on va lutter ensemble. Yes!